Nous continuons à faire le tour de la rentrée littéraire sur Cité Radio La Positive Info et nous accueillons François Gagé pour évoquer un premier roman brossant le portrait satirique et tendre d'un monde désorienté où les élites se consument. Bonjour François Gagé.
Bonjour.
Bienvenue sur Cité Radio et merci d'être avec nous aujourd'hui. On va d'abord parler un petit peu de vous et de votre parcours. Comment est venu cet amour pour les mots en tant qu'écrivain ?
Il est venu tôt. J'ai toujours beaucoup lu. Et ce, dès mon enfance. Je dévorais quand j'étais jeune Alexandre Dumas, Jules Verne, Jack London et tous les grands écrivains d'aventure. Et donc ça m'a pas quitté. J'ai continué à lire avec assiduité et j'ai fait des études plutôt littéraires, même si sur la fin j'ai quand même pris des options qui permettaient de s'insérer dans la vie professionnelle avec plus de facilité. Après l'écriture, c'était au début de l'âge adulte plutôt une velléité, enfin une envie, mais j'avais du mal à envisager ça comme un métier ou comme une activité à part entière qui me permettrait là encore d'entrer dans la vie active, dans le monde des adultes, et donc c'est resté effectivement plutôt de l'ordre du projet ou du rêve pendant de longues années. Et après, j'ai été très pris, en fait, hein, comme tout le monde, par mon métier d'avocat, par ma vie de famille. Et finalement, le déclic s'est fait il y a à peu près 5 ans, 5-6 ans, en 2019, après une épreuve particulièrement, disons, importante et difficile de notre vie familiale. Et après cette épreuve, j'ai eu effectivement cette espèce de désir impérieux et de volonté très ancrée d'aller au bout d'un projet littéraire et d'écrire un roman.
Et donc le projet littéraire est disponible aujourd'hui en librairie puisque nous allons évoquer Combustion. C'est votre tout premier roman qui est paru le 20 août 2025 aux éditions Albin Michel. Alors est-ce que vous pouvez évoquer l'histoire de ce livre en trois parties avec Paul, Baptiste et Darko, trois amis qui se retrouvent piégés dans une zone irradiée à la suite de l'explosion de la centrale nucléaire de Flamanville survenue en octobre 2023 dans le Cotentin.
Alors cette catastrophe n'est pas arrivée. Mais effectivement, il me semble, hein, dans nos sociétés technologiques, toujours un impensé, une possibilité qui est comme ça, un événement qui change complètement la donne et qui nous plonge dans une autre réalité. Et donc le roman utilise cette hypothèse comme un catalyseur, comme aussi une forme de symptôme. De notre époque et ce catalyseur permet de mettre ces trois personnages que vous avez cités, donc Paul, Darko et Baptiste, dans ce que j'appellerais une situation limite, c'est-à-dire une situation dans laquelle on est obligé de penser sa condition humaine et de revenir sur sa vie et sur ses choix. Et donc c'est le rôle, si vous voulez, un peu narratif aussi de cette catastrophe. Elle va permettre à chaque personnage de revisiter son destin, et ce destin va éclairer le comportement des personnages dans l'événement, c'est-à-dire dans ce Cotentin coupé du monde. Donc chaque partie correspond, même si effectivement les personnages sont chacun dans chaque partie, mais chaque partie correspond peu ou prou au destin et à l'itinéraire existentiel et personnel et affectif surtout, hein, c'est aussi beaucoup les histoires d'amour de ces trois de ces trois personnages et les relations de filiation de ces trois personnages. Donc chaque partie va correspondre au destin de chacun des personnages.
Et justement, comment avez-vous conçu l'intrigue de ce roman d'anticipation post-apocalyptique, puisque voilà, il y a effectivement cette catastrophe qui va servir de catalyseur, et puis vous faites aussi un peu une satire de l'élite parisienne, et puis alors ce qui est étonnant aussi, c'est que ce sont trois personnages masculins. Alors pourquoi aussi ce choix de ces personnages, et puis on voit aussi dans votre livre qu'il y a beaucoup d'ironie, d'humour aussi. Justement, comment avez-vous pu construire toute cette histoire avec ces trois personnages ?
Alors, il y a eu des points de départ, c'est-à-dire qu'il y avait des éléments de l'intrigue qui étaient présents au début du projet. Effectivement, alors la marche de ces trois hommes, sur les sentiers du Cotentin, une marche qui est d'emblée présentée et conçue comme une espèce de marche réparatrice, de moment qui devrait permettre aux trois personnages de se recentrer, de se retrouver. Donc il y a ce point de départ. Il y a aussi bien entendu la catastrophe qui était là, si vous voulez, dès le début de l'écriture. Et en fait, elle était là dès le début de l'écriture, je pense, pour deux raisons. Une qui me paraissait assez évidente, qui était effectivement ce besoin d'envisager cette hypothèse. Alors peut-être après Fukushima, qui est intervenu assez longtemps avant que commence l'écriture, mais qui est quand même un événement qui, moi, m'a profondément marqué. Et je suis aussi, du fait de mon âge, un peu un enfant de Tchernobyl. Donc je pense que, malgré tout, Tchernobyl, Fukushima, c'est deux dates et deux événements qui sont des vrais jalons dans notre histoire contemporaine. Donc il y avait cette raison-là. Et la deuxième raison, je pense que j'ai découvert au fur et à mesure de l'écriture, et c'est que la catastrophe était en fait la métaphore d'une peur plus intime. Et cette peur-là, cette catastrophe intime, elle se dévoile au fur et à mesure du texte, et on la comprend à la fin du roman. Donc voilà des raisons qui ont présidé disons, le point de départ. Et puis après, pour le reste, la construction s'est faite de manière progressive. Le personnage de Paul était présent dès le début. Les personnages de Darko et Baptiste se sont développés et se sont construits au fur et à mesure de l'écriture. Moi, je pense que quand on écrit, on ne sait pas où on va, et que l'intérêt, selon moi, l'aventure d'écriture, c'est de partir à la recherche de quelque chose qu'on ignore et qu'on va découvrir, ou pas d'ailleurs, au fur et à mesure du projet littéraire. Donc, en cela, donc la construction, c'est effectivement des éléments présents au début et ensuite des éléments qui s'ajoutent au fur et à mesure et des destins qui s'écrivent au fil du texte.
Et c'est vrai que les personnages sont contraints à un travail introspectif et confrontés à leurs regrets. Et justement, est-ce qu'il y a peut-être un caractère autobiographique dans chacun de ces personnages?
Alors, oui et non. Bon, je pense que il y a certains des événements que traversent ces personnages qui sont de la pure fiction, qui ne sont pas arrivés. En revanche, ce qui est certain, c'est que pour se mettre dans la peau de chacun des personnages, comme auteur, il faut y mettre un peu de soi-même. C'est forcément effectivement des avatars du narrateur. Il y a ce type de références très 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 différents, très très variés. Mais la première, c'est évidemment, bon, c'est un peu un pensum de diable, c'est Flaubert qui dit que, bon, Madame Bovary, c'est moi. C'est cette idée que effectivement dans un personnage on met beaucoup de soi-même, et à un moment donné on s'identifie complètement, on fait comme si c'était soi, pour essayer de fouiller ses états d'âme, sa condition, le questionnement de ses valeurs. Puis l'autre élément qui me vient à l'esprit, ça va vous paraître plutôt populaire comme référence, mais c'est Harry Potter. Et c'est cette idée que donc Voldemort dissémine dans différents objets un peu de son âme, et notamment dans son journal intime. Et donc c'est cette idée que, évidemment, dans une production écrite, dans un récit personnel, on met forcément un peu, voire beaucoup de son âme. Donc, en cela, je pense que tout récit, même une fiction, quelque chose de profondément autobiographique, c'est le récit et le journal d'une condition et d'une pensée.
Ouais, en tout cas, ce roman de 350 pages est vraiment une belle découverte, très ironique et très caustique, avec donc une écriture fluide et maîtrisée. Comment avez-vous travaillé avec les éditions Albin Michel pour votre livre et notamment avec votre éditrice Louise Danou?
Alors, le livre a été proposé aux éditions Albin Michel en janvier 2024, et le manuscrit est arrivé sur la table de Louise Danou. Vous savez, les manuscrits sont distribués entre les éditeurs d'une maison, et Louise Danou a immédiatement accroché. Ça correspondait à qu'elle cherche et au type de livre qu'elle veut défendre. Il y a aussi des références communes qui sont à Luisano et à moi-même qui sont les grands textes de la littérature contemporaine américaine, les Philip Roth, Bret Easton Ellis, les Tom Wolfe, les Isaac Bashevis Singer. Donc c'est vrai que je pense qu'on a tous les deux ce goût pour les grands récits et pour effectivement aussi peut-être les ascensions et les chutes des personnages qu'on trouve beaucoup dans la littérature américaine. Donc bon, il y a forcément cette proximité de goût qui va faire qu'un auteur et un éditeur se rencontrent et match, comme on dit. Et ensuite, le travail s'est fait de manière très fluide et très professionnelle, et en même temps avec beaucoup de complicité intellectuelle. Il y a eu quelques passages à retravailler. Et puis, forcément, quand on passe du manuscrit au livre, on repasse l'ouvrage plusieurs fois sur le métier et on reprend l'écriture pour qu'elle soit effectivement la plus efficace, la plus pertinente, la plus fluide, la plus belle possible. Et donc, voilà, ce travail prend entre 8 et 10 mois pour ce projet. Et je peux pas vous faire la comparaison avec d'autres, puisque pour l'instant, j'en suis effectivement à mon premier, mais on va voir comment les choses se déploient sur la suite de l'aventure littéraire et éditoriale.
Et depuis la sortie du livre, vous avez eu des retours de lecteurs, de libraires et d'internautes sur les réseaux sociaux?
Oui, tout à fait. Alors, c'est un peu la magie des réseaux pour les auteurs, c'est que maintenant les lecteurs peuvent effectivement vous écrire et vous dire ce qu'ils pensent du texte. Après, il y a aussi les proches et le second cercle qui spontanément s'intéressent à ce que vous sortez et donc vous font des retours parfois lors de discussions ou d'échanges SMS assez nourris. Et donc c'est très intéressant. Enfin, je trouve que c'est vraiment la partie sympa de la publication, c'est que ça suscite une discussion, donc ça enrichit d'une certaine manière la vie d'un dialogue supplémentaire qui va porter sur des personnages et sur par conséquent leurs valeurs, sur leur destin et sur la manière de l'interpréter à l'aune de chacun sa propre existence. Et donc non, c'est par exemple intéressant de voir que le personnage de Paul qui fait l'objet de la première partie du livre, même s'il est présent aussi dans la suite, est un personnage qui fascine et qui captive et qui passionne certains lecteurs et qui, à contrario, va susciter parfois une forme d'antipathie et de rejet. Et donc certains entrent totalement en empathie avec le personnage et d'autres ont plus de mal à voir sa part d'humanité qui est peut-être cachée derrière effectivement une forme de cynisme, même si moi je ne pense pas que ce soit un personnage tellement cynique, hein. Je pense que c'est un personnage qui se trouve embarqué dans une carrière compte tenu de ses déterminismes sociaux et qui va à un moment donné se réveiller d'une certaine manière suite à un électrochoc et comprendre que les choix qu'il a faits ne sont pas les siens et qui va faire un peu sauter les verrous et sortir du cadre. Donc voilà, je pense que c'est d'une certaine manière un personnage qui justement a cette capacité à revenir sur lui-même et à interroger sa condition sociale notamment. Et donc en cela, j'y vois pas un personnage cynique. J'y vois pas un Patrick Bateman, par exemple, le personnage d'American Psycho, mais vraiment quelqu'un qui a encore une conscience et qui a ce regard très critique, parfois même un peu masochiste sur lui-même et son destin.
Et donc ce sont des personnages qui font parler, qui font réfléchir, et beaucoup de lecteurs justement se retrouvent dans chacun de vos personnages.
Oui, alors, effectivement, certains se retrouvent dans les trois, certains se retrouvent en particulier dans un. Les personnages féminins aussi font débat. Certains sont très attachants, d'autres là encore suscitent une forme de méfiance ou de rejet. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse, hein, c'est que le texte ne laisse pas indifférent. Et à la limite, je trouve ça bien qu'il ne laisse pas indifférent dans un sens et dans l'autre, et qu'il ne soit pas consensuel. et que certains personnages suscitent une forme d'adhésion et d'empathie, tandis que chez d'autres, les mêmes personnages vont venir secouer une forme d'indignation ou de colère. Et donc, voilà, je pense que c'est ça qui est important dans un livre, c'est qu'il fasse circuler comme ça des idées, des sentiments, et que ces sentiments soient pas uniformes et qui varient d'un lecteur à l'autre.
Et est-ce que vous allez promouvoir votre livre dans des rencontres en librairie, dans des salons?
Oui, tout à fait. Il y a pour l'instant trois salons qui m'ont fait l'honneur de m'inviter dans les semaines qui viennent. Donc, j'irai à Besançon dans quelques semaines, donc 15 jours, puis à Manosque et enfin à Toulon en novembre. Et puis, effectivement, j'ai quelques invitations en librairie, un lancement jeudi 11 septembre à la librairie Albin Michel à Paris, et puis j'irai par exemple à Bayonne dans le courant de l'automne. J'espère aussi aller voir des libraires de Normandie, puisque l'intrigue se déroulant pour partie dans le Cotentin, il peut y avoir aussi chez les Normands un intérêt redoublé pour le texte.
Oui, et on précise aussi qu'il y a la photo du Mont Saint-Michel en couverture de votre livre.
Oui, tout à fait. Alors, on ne sait pas forcément pourquoi au début, mais à un moment donné, la couverture prend son sens et c'est clair d'un jour nouveau.
Et quel conseil donneriez-vous à un jeune auteur ou une jeune autrice pour se lancer dans l'écriture?
En fait, je pense que il faut de la patience. Je pense que c'est l'intérêt de l'écriture, c'est que dans un monde où les choses vont vite, où on cherche à obtenir des résultats rapides, l'écriture nous inscrit dans un temps long. Et donc, c'est comme préparer une expédition lointaine ou prévoir un exploit sportif important. Il faut de la préparation, il faut de la régularité. Et donc, je pense que voilà, il est important d'être constant et régulier, en ayant aussi à la fois l'envie d'écrire quelque chose de fort et en supportant l'incertitude quant à sa réception et au fait pour le premier roman qui soit effectivement publié. Et puis l'autre conseil, c'est qu'il faut se confronter à des lecteurs dès l'écriture et pas tout garder pour soi tout au long de l'écriture d'un manuscrit. Et donc il faut auprès des proches, dont on sent qu'ils sont des lecteurs aguerris, auprès, le cas échéant, d'auteurs qu'on connaît ou de personnes qui ont déjà écrit, envoyer son texte et leur demander un retour et écouter sur tour et en tenir compte pour continuer à écrire et le cas échéant même réécrire, reprendre. Donc, voilà, faut, je pense, dès la rédaction du manuscrit, se confronter à des retours de lecteurs.
Très bien, c'est très juste. Et après ce premier roman, est-ce que vous pensez déjà à la suite avec un autre livre?
Oui, bien sûr. Alors, la sortie d'un livre est quelque chose d'assez accaparant. Ça génère une excitation, mais aussi une forme de fébrilité. Donc, on a quand même l'esprit un peu occupé. Mais du coup, en fait, moi, même si je me réjouis encore des événements à venir, j'ai d'une certaine façon hâte de retrouver ma routine. J'essaye un peu de m'y remettre. Alors j'ai une vie professionnelle apprenante par ailleurs, donc ma routine c'est des petites séquences d'écriture, mais j'ai hâte de retrouver ça pour replonger dans la fiction, surtout que le début d'une fiction c'est je trouve le plus excitant quoi, c'est le moment où on va voir émerger des personnages, où on va vouloir en prendre soin et les comprendre, et ça c'est ce pouvoir assez merveilleux de l'imagination, c'est que vous faites émerger quelque chose, quelqu'un qui n'existe pas, mais qui progressivement va, enfin, auquel vous allez progressivement essayer d'insuffler de la vie. Et, enfin, en tout cas, dans l'écriture, ce qui me passionne, c'est d'essayer de faire des personnages au plus vrai que nature, enfin des personnages dont on a l'impression qu'ils existent. Donc ouais, j'ai hâte de retrouver ça.
Bah, très bien. Et puis, rendez-vous en librairie pour découvrir Combustion, donc un très beau roman de cette rentrée littéraire qui est donc publié aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup, François Gaget, d'être intervenu sur Citerio pour nous avoir évoqué votre roman. On vous souhaite donc une bonne rentrée, une bonne saison. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci.
Merci à vous. Merci, au revoir.
Retrouvez tous nos podcasts et toutes nos interviews illustrées sur citeradio.fr.